Bertrand Lamiel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la gestion chez B Capital. Alors, on va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. On a quand même des questions en ce moment sur ces valorisations, des marchés actions notamment. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin quand même? Est-ce que les investisseurs n'ont pas chaussé leurs lunettes roses uniquement?
Alors, c'est vrai qu'on vient de faire un beau parcours et des questions assez légitimes peuvent se poser, ce d'autant plus que on a souvent un cadrage avec les grands indices et le CAC 40, globalement, lui, il est plutôt en train de flancher. On pense que, voilà, retrouver des niveaux de 5050 qui était le gap post-élection présidentielle, c'est quelque chose qui est logique. Ce d'autant plus qu'on rentre dans une saisonnalité qui est un peu adverse, parce que sur les 4 mois, donc mai, juin, juillet, août, septembre, on a depuis 87, depuis que le CAC existe, en général une performance de moins 4,20. Donc on est dans cette période-là, et si on regarde l'indice, on se dit, bon, c'est peut-être pas la bonne idée. Maintenant, nous, on va regarder en dessous, au niveau des valeurs, et on se rend compte que sur ce marché, on prend les 500 grosses valeurs européennes, on en a 80 qui sont en tendance haussière, et à l'intérieur de ces 80, il y en a à peu près la moitié qui surperforment le marché. Donc pour nous, c'est une période idéale en tant que stock picker pour tenter de faire la différence avec les grands indices.
Cette euphorie, si on peut dire cela, sur les marchés actions, c'est lié à quoi principalement? Parce que c'est effectivement à l'arbitrage entre les obligations et les actions, au fait que les banques centrales ont injecté tellement de liquidités qu'effectivement il y a cet engouement pour les marchés. Ou une situation, parce que la situation économique, elle est certes plus favorable, mais pas extraordinaire.
Alors, l'arbitrage obligation-action, on l'attend tous depuis un grand moment. On ne peut pas dire que ce soit encore véritablement ça le déterminant. Ce qui se passe probablement, c'est que en début d'année, les analystes, les économistes nous disaient, bon, on aura de la croissance, elle devrait être soutenue, mais attention quand même, il y a des grosses échéances, notamment les élections présidentielles françaises. On a des rendez-vous avec l'Allemagne. L'Italie vient de nous dire qu'a priori, ils voulaient calquer leur schéma d'élection sur l'Allemagne. Bon, ben ça a sauté. Enfin, le verrou a sauté. Les élections présidentielles françaises, globalement, se sont bien passées du côté des investisseurs, du point de vue des investisseurs. Donc ça a libéré aussi un potentiel de croissance. Après, quand on regarde, c'est la première année depuis bien longtemps, depuis 2007, je crois, où la classique, en début d'année, on vous annonce 10% de croissance. Arrivé en mars, en général, on revoit les objectifs à la baisse pour terminer à la fin de l'année avec un petit 2-3% de croissance. Là, cette année, c'est quand même notoirement différent. Non seulement les 10% de croissance, ils ont été confirmés, mais ils ont même été relevés. Donc on est dans cet environnement où globalement, les entreprises nous disent, OK, ça devrait aller mieux et on voit repartir le chiffre d'affaires, ce qui est très important, et surtout les investissements. Et les investissements qui repartent, ça, historiquement, c'est une donnée dure, elle ne s'infléchit pas du jour au lendemain. Donc je pense que c'est déterminant principalement, plus les banques centrales, notamment en Europe, qui restent accommodantes, qui font qu'on a des marchés qui ont pris un mode haussier.
Oui, parce que sur la macroéconomie, on entend quand même dire qu'on ne reviendra pas à la croissance qu'on a pu connaître avant cette crise de 2007.
Non, malheureusement, voilà, on a une croissance qui restera faible en Europe. Pour autant, on a une croissance en Europe, mais on retrouve aussi, chose qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment, croissance aux États-Unis, croissance en Asie, croissance dans les émergents. Donc globalement, le monde entier est en croissance, plus faible que ce qu'il nous avait historiquement donné. Pour autant, on est dans cet environnement-là, et ça suffit à donner de l'eau au moulin aux investisseurs pour revenir sur les marchés actions.
Alors, on a pu parler aussi avec l'élection de Donald Trump d'une thématique reflation pour l'instant. On en est où sur cette thématique-là? Est-ce qu'elle a été mise aux oubliettes?
Alors effectivement, c'était le grand thème, la reflation, le retour de l'inflation, ce qui a permis notamment à une partie de la cote qu'on appelle la value, c'est-à-dire les valeurs historiquement décotées, de revenir sur le devant de la scène. Dans celle-là, on a retrouvé essentiellement deux gros blockbusters, les pétrolières et les banques, la finance. Là, c'est un petit peu en train, voilà, c'est un petit peu en train de s'effriter, et on voit revenir sur le devant de la scène des sociétés qui avaient été un peu jetées aux oubliettes, à savoir les valeurs de croissance qui sont en train de faire leur retour. Et de ce point de vue-là, un des éléments tangibles, c'est les valeurs small et mid cap qui font un très gros parcours puisque globalement, elles sont à peu près à deux fois la croissance du marché des grands indices.
Alors, un autre secteur qui connaît un engouement, c'est la tech. On a cité récemment Amazon, 1000 dollars d'Amazon. Alors, on écoute les uns et les autres non, qui nous disent non, il n'y a pas de bulle. On n'aurait pas eu le même discours dans les années 2000. Mais en quoi il y a une différence entre ce qui se passe aujourd'hui sur la tech?
La plupart des valeurs tech aujourd'hui font du chiffre d'affaires, font des résultats, ce qui n'était pas le cas dans les années 2000, puisque souvenez-vous, à l'époque, on était capable de valoriser à des prix astronomiques des sociétés qui étaient introduites en bourse avec juste un business plan et encore pas grand-chose de chiffre d'affaires. Donc là, c'est quand même un élément fondamentalement différent. Après, ça et là, il y a quand même des dossiers qui sont quand même extrêmement bien valorisés, voire probablement un peu trop valorisés. Donc, il faut faire la différence. Et si on revient sur le marché européen, qui aujourd'hui a notre préférence, parce qu'il y a plus de croissance avec des valorisations moins élevées, on voit que le marché fait la différence. Des dossiers comme Capgemini ou Dassault Systèmes ont un peu calé dernièrement, alors que dans le même secteur, une valeur comme Atos enchaîne les plus hauts historiques. Donc, il faut prendre l'information que nous donnent les marchés et savoir en profiter.
En conclusion, ce fameux arbitrage, donc action-obligation, n'a pas eu lieu. Il est quand même attendu. Est-ce que ce qui se passe sur les taux, ce qui va se passer sur les taux aux États-Unis sera le facteur décisif?
On pense que tant que les taux américains, notamment les taux 10 ans, peuvent remonter jusqu'au niveau de 2,5 à 3, là on risque probablement d'arriver sur un seuil qui va être un peu un seuil de souffrance parce que si jamais ces taux montent trop vite et on risquerait effectivement d'avoir un gros dégagement du côté de la cote obligataire vers la cote action, et là c'est jamais très bon qu'il y ait de la précipitation. Au niveau de l'Europe, on reste avec des taux qui sont très faibles et le 10 ans allemand est encore trop bas à notre niveau. Donc voilà, on pourrait avoir un schéma de remontée des taux graduels sur le 10 ans qui serait favorable à la fois au marché action et pas trop défavorable au marché obligataire.
Merci Bertrand Lamy d'avoir fait le point avec nous.
Merci à vous.